I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Oussama Ben Ali.
Ça va comme ?
Alaykoum salam, comment tu vas mon frère ?
Ouais, toi, j'aime bien ton intro.
Vraiment, tu pars de galère en galère et puis c'est si tu tiens le coup face à ces galères, c'est là que tu vas pouvoir créer quelque chose derrière et perdurer, tu vois, durer dans le temps. Parce que là, si jamais tu abandonnes aux premières contrariétés, c'est pas la peine, tu vois. Après, moi, je parle de ça, je suis loin d'être arrivé, hein, mais je sais que les gens qui ont des grandes carrières, tu les écoutes parler de leurs galères, c'est magnifique, tu vois, t'apprends la persévérance, quoi.
Exact, bien sûr.
Et donc, mon frère, tu avais une ou plusieurs galères, anecdotes à nous raconter ?
Galères, ouais, je pense que les galères du débutant, je pense que tout le monde qui a commencé dans ce métier ou cette passion, ça dépend de chacun comment il l'interprète, mais au début, bah, tu répètes, par exemple, au début, je me rappelle, parce que j'ai commencé une dizaine d'années, il y a 10 ans maintenant, ouais, 10 ans, 11 ans, on va dire, et tu commences à répéter, déjà, tu répètes chez toi, dans ta chambre, ensuite, si tu es programmé dans un plateau, bah, tu fais connaissance avec les artistes deux minutes avant de monter sur scène.
Est-ce que quand tu répétais dans ta chambre, tu avais un peigne ou une brosse en tant que micro ?
Non, je faisais pas ça. J'ai un miroir et je répétais devant, donc je corrigeais un peu ma gestuelle, etc. Mais c'est vrai qu'au début, normalement, comme on n'a pas fait le conservatoire, logiquement, le parcours idéal, c'est que tu as un metteur en scène, etc., qui te corrige. Mais nous, comme on ne vient pas de ce monde-là, et surtout, ça coûte une blinde, donc tu te corriges toi-même. Tu te lances dans l'océan avec ton petit bateau de pêche. Après, ça casse ou ça passe. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai aimé dans ces débuts-là, dans cette passion, c'est un peu la pression.
D'accord. Et donc, tu as eu quelques galères dans ces débuts-là.
Oui, mais les galères des débuts, ben, c'est très simple. Et en plus, des galères qui arrivent encore maintenant, c'est... Donc on t'annonce sur scène, soit on t'annonce avec un autre nom, ou ton nom il est pas comme celui qui a sur les fiches, donc c'est bon. On se trompe de ta ville d'origine, on se trompe, je sais pas moi, de quand exactement t'as commencé, tu montes sur scène et t'es programmé pour, je sais pas moi, 5 minutes. Moi, une fois, je me rappelle, il y a peut-être 6 ans maintenant, j'étais programmé pour un plateau d'humour ici à Bruxelles. Et donc je joue. Et au bout de 2 minutes, donc c'était 6 minutes chacun, je me rappelle. On était un peu beaucoup sur scène. Donc on avait décidé de faire 6 minutes chacun. Comme ça, tout le monde respecte le temps de passage de chacun. Et ouais. Donc, je passais vers la fin, vers les derniers. Mmh. Et à un moment donné, je joue 2 minutes de sketch. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et je vois, on monte sur scène et on. On dit, oh là, c'est merci, applaudissez Oussama Ben Ali.
Ils t'ont coupé net, quoi.
Ils m'ont coupé, en fait, en plein milieu de mon sketch. Et sous, apparemment, qu'ils avaient débordé dans la programmation, ils devaient rendre la salle, et chaque demi-heure en plus, c'était de l'argent en plus qu'ils devaient payer.
D'accord, mais du coup, ils auraient dû plutôt couper les autres pour qu'ils restent à 6, parce que là, les autres ont dû faire 7-8 chacun.
En tout cas, c'est comme on dit, tu sais très bien, tu sais bien que ceux qui passent en dernier, si les premiers ont débordé un peu, c'est les derniers qui prennent.
Hein. Ouais, on les sacrifie malheureusement, mais c'est pas bien.
Voilà, ça fait partie, moi. Voilà, c'est une galère. Sur place, t'es un peu étonné, t'es un peu choqué, hein. Mais honnêtement, ça fait partie du game et... C'est avec tout ça que j'aime cette passion.
D'accord, mais c'est ouais, ça fait partie du jeu tout simplement. C'est dur, mais il faut supporter ça. Et puis après, ça nous fait des bons souvenirs et puis on en rigole. Là, quand tu fais une scène qui se passe bien, tu te rappelles des fois où tu as joué et que tu avais 6 minutes et qu'on t'a coupé au bout de 2 et tu te dis bah là au moins je joue autant que je veux. Tu vois, je suis bien. Voilà.
Et oui. C'était des gens de ce style de galère-là où des fois tu montes sur scène, le micro il fonctionne pas, Il y a un micro pour 12, donc tu dois le passer. Bref, mais tout ça fait son charme en fait. Ça fait son charme et c'est ce qui fait. Après, quand tu débutes, tu vas pas demander avoir un micro avec cravate pour toi tout seul, hein, c'est normal. Hein. Mais ça fait son charme. C'est des galères. Quand tu commences, ça peut te stopper, ça peut te freiner. Mais vraiment, tu dis, tiens, ah ouais, si c'est ça, vaut mieux pas continuer, quoi. Mais honnêtement, ça fait son charme et tu rigoles. Après, tu rigoles. Tu
Ouais,
rigoles après.
bien sûr. Mais tu vois, tu disais le fait d'arriver, d'avoir genre de pas avoir ton propre micro et tout ça, c'est normal. C'est au début, petit à petit, tu vas apprendre comme ça. Tu vas jouer dans des scènes où tu n'auras pas tout ce qu'il faut. Petit à petit, tu vas commencer à t'améliorer. Peut-être que ça va te motiver à t'acheter ton propre micro. Moi, je connais des humoristes, même s'ils se déplacent sur un plateau d'humour, ils viennent avec leur micro à eux. Tu vois, ils ont l'habitude, tout
Beaucoup,
ça,
hein.
quoi.
Ils ont raison, honnêtement, ils ont raison. Après, quand tu débutes, tu vas pas t'acheter un micro déjà parce que ça coûte une blinde.
Ouais.
Et tu vas pas demander à avoir ton micro, c'est normal. Donc ces galères-là, moi, je savais très bien. Mais il y a des galères, tu t'y attends pas, moi. J'ai commencé où j'ai joué plusieurs fois à Molenbeek, par exemple, que tu
Ouais.
connais, qui est connu mondialement, très populaire, etc. Et moi, j'ai commencé à. Donc, j'ai fait mes débuts à Molenbeek, et entre autres, dans nos communes, mais principalement à Molenbeek, avec un collectif. Et là, tu avais donc un public très jeune, qui n'était pas forcément indiscipliné, mais qui était très. On sentait qu'il voulait participer au spectacle, mais
Ah
un
non,
peu
d'accord, il était trop
quand même.
réactif, quoi.
Exactement. Donc, des fois, tu joues sur scène et tiens, tu te retrouves avec des lasers dans les yeux.
Ah oui.
Un couple en face, enfin, au premier rang, il est en train de discuter normalement. Donc, ça, pour un début, ça peut être très. C'est une grosse galère, mais ça te forge, je sais très bien que ça te forge très très bien. Ah
Mais
oui.
le coup du laser dans les yeux, tu vois, je m'y attendais pas du tout, hein.
Ah oui, moi j'ai eu des lasers dans les yeux. Moi et d'autres compagnons, des lasers dans les yeux.
Oh.
Les lasers, combien de lasers
Non, mais je vois très bien, parce qu'en fait, moi, si tu veux, je suis chauffeur de bus, tu vois, je suis dans l'équivalent de la tech à Bordeaux. Et on a des fois des gens qui nous mettent des lasers et tout comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà pris dans l'œil et tout. Tu sais, c'est les lasers verts, tu vois.
C'est exactement ça.
C'est ça. Et ils sont plus puissants que la normale et tout. C'est des lasers qui peuvent brûler des trucs. D'ailleurs, ils ont montré des vidéos, je crois, où ils brûlaient des poubelles. Ou alors, il y avait un mec, genre, il prenait une banane. Il l'a coupé en passant avec le laser comme ça. Il ouvrait la banane, elle était tranchée à l'intérieur.
Ah ouais.
Et les gars, ils se disent, bah, j'ai rien de mieux à faire que de mettre ça dans les yeux de quelqu'un.
Non mais c'est ouais ça.
C'est
Ça
dingue.
après il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer hein.
Ah bah non, là, tu n'arriveras pas à l'expliquer, ça c'est sûr. Enfin bon, en tout cas, heureusement, ce n'est pas des choses qui nous découragent. On continue à monter sur scène.
Exactement, je l'ai toujours jamais été découragé. J'ai jamais pris un truc parce que je savais comment ça allait se passer. Je savais que j'allais pas monter sur scène et les gens n'allaient pas m'applaudir du début à la fin. Et des fois, ça allait être pas drôle, ça je savais. Débile, tout le monde en a pris.
Ah, bien sûr.
Et des publics plats, t'en as. Des publics chauds, t'en as. Et voilà, ça te forge. Et moi, ça m'a beaucoup forgé. Donc, j'ai joué un peu partout, même à Paris aussi. Hein, tu as plusieurs types de publics. Et honnêtement, je retire en rien des expériences que j'ai eues. Honnêtement, ça. Mais vraiment rien, je suis fier d'avoir joué dans plusieurs endroits et avec autant de publics différents.
Oui, bah parce que c'est ce qui fait que tu apprécies après quand tu arrives justement à d'autres steps dans ton cheminement d'artiste. Quand tu arrives à faire des salles, tu vois, de plus en plus grandes et de plus en plus remplies, c'est là que tu apprécies d'être passé par ces galères-là parce que tu te dis,
Exactement.
j'ai mérité ça, quoi.
Exactement. Moi, d'ailleurs, justement, parce que je connais certains humoristes qui eux ont commencé directement dans des grosses salles, enfin grosses salles, je parle de 200, 300, 400 personnes, voire 500, et j'ai assisté à des humoristes face à des publics un peu, on va dire, un peu chaud bouillant, qui étaient déstabilisés dès la première minute. Vraiment déstabilisé parce que après bien sûr je crame personne mais c'est eux-mêmes qui me l'avouent. Ils me disent ouais c'est vrai parce que nous quand on a commencé directement dans des grandes salles, on n'a pas commencé dans des petits cafés théâtres où on voit les gens, il y a 4-5 personnes, donc on n'a pas cette formation du terre-terre, etc.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et ouais. Même eux, ils l'avouent eux-mêmes. Et ça, en tout cas, moi, ça m'a permis de gérer n'importe quelle situation, en tout cas. Les pires situations qu'on peut avoir dans une salle de spectacle.
Non, mais c'est sûr que de passer par des grosses galères comme ça, ça permet d'être tout terrain finalement, tu vois. T'arrives dans une salle où les gens sont bien, bon, bah, ça va se passer normalement, tranquille. T'arrives dans une salle où ça part un peu en vrille, t'as l'habitude, tu te souviens, et puis tu sors tes ressources, tu vois, ça te pousse dans tes retranchements, et hop, tu continues, tu sors les rames, et puis tu y vas, tu vas combattre la tempête, ou tu vois, voilà, c'est...
Non, mais c'est... Après, voilà, comme tu dis, hein, après, les gens, des fois, c'est très dur. Des fois, c'est très dur, mais... par exemple, des fois, tu sais, je pense que t'as déjà eu cette impression, on l'a tous eu, moi, je l'ai eu plusieurs fois même, je le cache pas. Quand tu commences un sketch, et tu sais, subhanallah, tu sais que ça va être un bide. Même, genre, allez, après 10 secondes, comme on dit, les 10, 20 premières secondes, c'est un peu le baromètre de ce qui va se passer. C'est un peu, voilà, le thermomètre qui va prendre un peu la température. Et subhanallah, moi, j'ai toujours senti ça. Je sais quand ça va être un bide. Et là, quand tu sais que ça va être un bide, tu te mets en mode automatique.
Ah, mais c'est ça, pilote automatique.
Tu récites ton texte, limite, tu ne laisses pas d'espace entre les vannes parce que tu sais très bien que ça va pas rire.
Le problème, c'est que d'habitude, les espaces que tu mets, c'est pour laisser les gens rire. Mais quand ça ne rit pas, forcément, il faut enchaîner, quoi.
Voilà, donc tu te mets en pilote automatique. Donc finalement, si tu avais prévu un sketch de 10 minutes, il va faire au final 3 minutes. ce qui est important, et ça, alhamdoulilah, je l'ai toujours fait. On n'a jamais, même si des fois il y a eu des bides, on n'a jamais senti en moi, dans mon visage, que j'ai fait un bide. Au final, tu sais, le public, merci, c'était pour moi, et tu pars comme si de rien n'était.
Mais ça, c'est le plus important. C'est une des premières choses que j'ai vues dans l'humour. Je ne vais pas dire une première chose que j'ai apprise, parce qu'évidemment, j'ai mis du temps à apprendre ça. Mais c'est une des premières choses que j'ai vues dans l'humour. J'avais vu une comédienne qui jouait son spectacle 2 soirs de suite. Le premier soir, elle avait genre... la salle, elle devait faire à peu près 40 personnes. La comédienne, le premier soir, elle avait 2 personnes dans le public. Et le deuxième soir, elle avait la salle pleine, tu vois. Et je l'ai vu les 2 soirs, elle a joué de la même façon. Vraiment.
Ah, mais je respecte ces gens-là. Hein. Ceux qui, même si ça n'arrive pas, qui continuent... continuent de persévérer, qui soient pas déstabilisés comme ça.
Il faut pas que ça se voit sur nous, il faut qu'on avance comme si ça cartonnait, et puis hop, après les gens, soit ils te rejoindront dans le train, soit c'est pas grave, et ils se diront au moins le mec il se donne à fond, et on voit pas sur lui, on voit pas sur son visage que ça va pas.
Moi à ce niveau-là, j'ai toujours, parce que déjà c'est une philosophie de vie en dehors du monde de la scène, hein. Dehors, moi j'ai pas peur, honnêtement, j'ai jamais eu peur de l'échec dans tout. Si je tente un truc, ça marche pas, ça marche pas, au moins j'ai essayé. Et ça je l'ai colporté sur la scène. Au moins, si ça marche pas, au moins j'ai essayé. Je peux faire même 10 bits de suite, au moins j'ai essayé, et puis c'est tout. Et puis je connais pas une personne qui dans sa vie est née et a réussi tous ses exploits, enfin tout ce qu'il a entrepris dans sa vie. Il a tout réussi et il est mort en ayant... toute sa vie.
Il doit y en avoir, mais on n'est pas là pour parler de moi, mon frère.
c'est vrai. J'ai oublié mon ami Sofiane, qui lui est exceptionnel.
Ceux qui écoutent le podcast savent que je raconte n'importe quoi parce qu'ils ont écouté toutes les galères que j'ai racontées dans les autres épisodes. Donc tout va bien. Ouais. Non, mais c'est beau d'avoir cette philosophie-là, d'être prêt à monter sur scène et à se dire, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Il faut avoir cette mentalité-là, parce que sinon, si on part en mode « je suis drôle et je vais monter sur scène et ça va cartonner », le jour où ça se passe mal, évidemment, tu le prends très mal.
C'est même, encore une fois, en dehors de la scène, moi, je donne aussi des ateliers théâtre à des plus jeunes et des jeunes qui veulent devenir comédiens, qui aiment cette, cette passion. Et je leur inculque un peu, je leur dis que, voilà, et si vous voulez faire cette passion, en tout cas si vous voulez en faire un métier, c'est très important que vous sachiez qu'il ne faut pas, pas avoir peur de l'échec. En tout cas, je sais que ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec dans tout. Je dis toujours, la vie est un gros livre avec plusieurs chapitres, dont pas mal sont des chapitres d'échecs. Donc, obligé, tu vas faire un échec et puis tu vas tourner la page et ailleurs, il y aura la réussite, mais il ne faut jamais avoir peur de l'échec.
C'est beau, c'est vraiment, c'est une belle philosophie. On devrait tous.
Paulo Coelho, de Molenbeek.
Ouais, il était de Molenbeek.
Il était de Molenbeek, ouais. Je l'ai connu.
Ah oui, d'accord. On penserait pas, hein, tu sais, mais comme quoi Molenbeek, hein, il y a pas que des, il y a pas que ce qu'on raconte dans les infos et tout. Il y a aussi de très beaux poètes.
Écoute, quand t'es à Bruxelles, tu me fais signe, je te ferai visiter Molenbeek et tu verras que c'est une ville. C'est une commune extraordinaire. Cosmopolite, les gens sont accueillants, très souriants. Tu verras, ça te changera. Parce que je sais que malheureusement, on en donne une mauvaise image. Mais Molenbeek, c'est une magnifique commune.
Mais c'est l'image que donnent les médias. Tu sais, c'est comme tout. Moi, j'ai grandi en cité. J'étais à Clermont-Ferrand, j'ai grandi en cité. Franchement, on donnait une mauvaise image.
C'est vrai que, au début, quand tu n'y as jamais mis les pieds, tu te disais, ah, de toute façon, c'est chaud. Et honnêtement, ils t'accueillent à bras ouverts.
Ben, si tu prends que les images que tu vois à la télé, évidemment, tu ne voudras jamais y aller. Mais en vrai, il y a des gens magnifiques là-bas, mais c'est comme partout. Tu sais, dans les cités, il y a des gens magnifiques qui vont faire de très belles carrières, que ce soit, je sais pas, dans le droit ou dans la médecine ou je sais pas, ou après, il y en a qui vont faire des trucs, tu vois, ils vont devenir, j'en sais rien moi, ingénieur ou je sais pas quoi, il y en a. Bien sûr, il y en a qui vont mal finir et c'est normal. Mais dans le même temps, tu as aussi dans les beaux quartiers des gens qui sont de vraies crapules et qui vont finir en tôle et tout. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que tu viens d'un quartier, que tu vois, d'une cité, que tu es forcément voué à l'échec. Et c'est pas parce que tu viens d'un quartier huppé un peu, voilà, que tu vas être quelqu'un de bien forcément.
Exactement. Les gens ne sont pas prédisposés à faire telle ou telle chose en fonction du milieu où ils habitent. Je veux dire, un citéen, comme on dit, n'est pas prédisposé à être voué à l'échec, à voler des petites vieilles ou à taguer les murs de toute la ville. Non. Au pire des cas, si on a un peu de doute, on demande à l'imam Chelgoumi, il va nous guider vers la lumière.
Mais bien sûr, mais évidemment. Mais l'imam Chelgoumi, tu sais, l'imam Chelgoumi, c'est notre, comment dire, c'est notre fierté. Tu vois, c'est vraiment...
c'est notre Cristiano Ronaldo, hein. C'est...
voilà, il est excellent, il est magique, il est juste magique. D'ailleurs, justement, étant donné que c'est le meilleur d'entre nous, si jamais il veut venir me raconter ses galères d'humoriste, il est le bienvenu.
Ah ouais, lui tu vas péter les audiences. Hein. Ouais, on rigole, mais propose-lui. Hein. C'est
génial. Ah, écoute, je vais essayer de voir si. J'ai juste peur qu'en fait, je lui propose de raconter une anecdote, qu'il la raconte et en plein milieu, il s'arrête. Et après, quand je lui dis, bah, et la fin? Et il me dit, je peux pas dire plus.
Ça m'étonnerait même pas.
Parce que c'est ce qu'il avait dit pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est ce qu'il avait dit pour Charlie Hebdo, quand il y a eu les attentats de Charlie et tout. Et lui, il disait, il a été interviewé, il dit, ouais, je présente condoléances pour la famille de Charles et le journaliste, il a fait « Pardon? Quoi, qui ?» Et il dit « Je ne peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. » C'était magique. Bon, en tout cas, Khouya, merci beaucoup pour ces anecdotes et pour ces moments de philosophie, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup quand on va plus profondément dans le podcast. Et là, le fait de ne pas abandonner, de tenir bon malgré les échecs, malgré les épreuves, c'est une belle philosophie de vie et je te remercie pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Oussama Ben Ali sur Insta. Ceux qui n'ont pas Insta, Facebook.
Ok, ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.